Bienvenue dans Dessine-moi un corps, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute.
Les corps, sujets de très nombreuses créations et soumis dans la société aux normes, sont particulièrement touchés par la censure, qu'elle soit ouvertement affirmée ou plus cachée. Tous les corps sont concernés, qu'ils soient féminins, gros, handicapés, racisés, trans. Cette liste s'allonge encore. La censure peut intervenir de la conception de l'œuvre jusqu'à sa réception immédiate ou plus tardive, prendre la forme d'interdictions officielles, de refus de publication ou d'exposition devant le public, mais aussi celle d'une invisibilisation de la création ou d'une incitation à l'autocensure. En tuant l'image d'un corps, on tue tout ce qu'elle représente et les valeurs qu'elle véhicule. Parfois, l'acte iconoclaste vise aussi le regard porté sur l'image. Si l'image est atteinte, elle ne peut plus être regardée et disparaît ainsi de la sphère publique, ce qui nous permet d'assimiler cet acte iconoclaste à un acte de censure. Depuis des décennies, la figure humaine a subi la censure, et pourtant cela reste incroyable le nombre de nus représentés en histoire de l'art, sous divers prétextes, que ce soit dans le milieu profane ou religieux. Relation « je t'aime moi non plus » en quelque sorte. Pourquoi censurer ? À quel moment l'interdiction est-elle légitime ? Au nom du respect des convictions morales ou religieuses ? Peut-on interdire au nom de concepts esthétiques ? Au nom de la loi ? Beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cet épisode. Trigger warning, je ne suis pas spécialiste de la question. Je me suis documentée du mieux possible en variant mes sources. Aussi, soyez indulgents si jamais vous constatez des incohérences dans mes propos. J'espère vraiment que cela va vous plaire. Allez, bonne écoute. La nudité du corps a toujours constitué pour les religions monothéistes un puissant fond de problème. Censurer, ne pas censurer. Cacher, laisser visible. On sait que dans le monde arabe, par exemple, on alterne les périodes de tolérance et de non-tolérance. Pareil dans la religion chrétienne ou juive. Cela explique en partie pourquoi les artistes se sont employés à fissurer ce carcan religieux et traiter du corps comme thématique principale. Alors je ne suis pas ici pour vous parler religion ni sociologie, car je ne suis pas légitime à tenir un tel discours. En revanche, je peux vous parler d'histoire de l'art et d'histoire du corps. Même si la religion reste un des facteurs principaux de la censure du corps, il est temps de rétablir une vérité à propos des arts de l'islam. L'art arabe a toujours produit des images. Il ne s'est pas élevé contre la représentation animée tant que celle-ci reste décente. L'islam n'est pas iconoclaste mais aniconique, ce qui est différent, dans le sens où pendant certaines périodes, des courants essentiellement sunnites évitaient la représentation picturale de la création divine, mais ne détruisaient pas les images pour autant. Motifs végétaux et surtout floraux sont privilégiés, comme on peut le voir dans les magnifiques fresques et mosaïques dans la grande mosquée des Omeyyades à Damas. Puis commence alors une recherche vers plus d'abstraction, avec des formes géométriques complexes, et puis plus tard le travail sur le corps, à l'aube du 19e et surtout courant 20e. Cette relative absence de la figure humaine se retrouve aussi dans d'autres religions, d'autres cultures, dans différentes époques, au nom de différentes choses, mais elle n'est jamais très loin pour autant. Dans les pays arabes début 19e, les pratiques autour de la représentation du corps montrent surtout un mimétisme envers les institutions européennes, en particulier dans les écoles des beaux-arts. Par exemple, le nu couché devant un hublot de Georges Anas Sabag, qu'il a réalisé dans les années 20, nous rappelle furieusement les nus réalistes peints par Renoir. La nudité n'est donc pas un tabou, on enseigne des cours de modèles vivants dans les écoles des beaux-arts, au Caire par exemple, jusque dans les années 70. Mais après des années de liesse artistique, on interdit subitement les modèles vivants dans les écoles. Le nu interroge forcément la vision de l'orientalisme. Les photographes et peintres orientalistes ont les premiers contribué à rendre visible le corps arabe en prenant, je dirais, un peu trop de liberté. La femme orientale est vue selon trois motifs récurrents en histoire de l'art à cette époque, le harem, le marché aux esclaves et l'odalisque. Et cette nudité destinée à érotiser va imprégner tout le vocabulaire orientaliste. Le public occidental connaît surtout les femmes d'Alger de Delacroix ou les odalisques de Matisse qu'il peint à Nice. J'en ai déjà parlé dans mon épisode sur le fétichisme que je vous invite à réécouter si la question vous intéresse. Nous sommes donc ici face à une ambivalence. D'un côté, on tolère très peu la représentation du corps dans le monde arabe, surtout le corps nu. Mais de l'autre côté, les artistes occidentaux qui représentent un Orient fantasmé nourrissent une vision assez mensongère sur l'Orient. Si on prend la religion chrétienne comme exemple de censure de l'image, on tape dans le mille. Pourtant, le christianisme produisit assez tôt des images. Il ne s'agit pas d'idoles, mais d'icônes associées au culte du Dieu unique. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens verset 5. De ce débat naît le fameux iconoclasme à Byzance, mouvement religieux qui rejette la vénération des représentations associées au divin. En effet, suite à cela, certains en sont venus à adorer l'effigie de leur dieu plus que Dieu lui-même. Généralement, ce genre de processus entraîne des destructions physiques de ces icônes. Pour représenter le visage de Dieu, il fallait doser entre le fait de représenter un être considéré comme idéal, sans comparaison aucune, donc en soi impossible de représenter, car aucune représentation n'atteindrait jamais la perfection de cet être, et le fait de rendre tout ça pédagogique pour ceux qui sont illettrés et pour qui les images sont utiles. David Friberg parle du pouvoir des images et de l'influence de la représentation sur le peuple, notamment dans le domaine du sacré, comme le démontrent parfaitement ces statues défigurées dans la cathédrale Saint-Martin d'Utrecht durant l'iconoclasme de la Réforme au XVIe siècle. Là où le Moyen-Âge se caractérisait par une plus grande tolérance à cet égard, c'est au XVIe siècle que l'Église raidit sa position vis-à-vis des représentations de corps, notamment les corps nus, car cela renvoie à la chair du péché, à l'exception bien sûr du corps du Christ, le seul qui a encore le privilège d'être à poil, car référence au nu du supplicié. Le Concile de Trente enclenche un mouvement d'encadrement plus étroit des artistes sur la question du nu, en gros ils sont fliqués, et des traités leur sont destinés. Des œuvres produites à des périodes antérieures sont ainsi corrigées, voilées, supprimées. Dans un précédent épisode sur le vêtement, je parlais justement de l'effet de pudeur et de honte engendré par le corps nu, le vêtement permet ainsi de cacher les parties intimes au regard et de racheter sa foi. On se souvient de l'Adam et Ève chassés du paradis peint par Masaccio, à la chapelle Brancacci à Florence, dont les sexes furent couverts 2 siècles plus tard de feuilles de vigne à la demande de Côme III de Médicis, tandis qu'à quelques centaines de kilomètres de Florence et 15 siècles plus tôt à Pompéi, des phallus de bronze en érection ornaient les portes des villas ou éclairaient les pièces. Il y a comme quelque chose qui cloche, vous ne trouvez pas ? Plus tard, afin d'éviter le déferlement des illustrations érotiques qui circulent sous le manteau, le clergé et certains membres influents de la haute société en Europe interdisent la circulation de ces images et contrôlent toute parution d'ouvrages, au point qu'une section spéciale appelée l'enfer de la bibliothèque sera même créée à la Bibliothèque nationale de France sous l'Ancien Régime, regroupant tous ces ouvrages licencieux et autres recueils coquins. Certains tableaux sont aussi interdits dans les salons car jugés trop indécents pour être montrés au public. Ils sont donc cachés dans les cabinets privés des collectionneurs et sortis uniquement pour les privilégiés. Cette ambivalence autour de la figure humaine et du corps nu cache une véritable hypocrisie, sachant que sous couvert du prétexte mythologique et historique, absolument tout est permis. Ce n'est pas la même rigolade en Espagne. À une époque où l'Inquisition espagnole refuse même les nus symboliques et mythologiques, et environ 70 ans avant l'origine du monde de Courbet, peint en 1866, c'est peut-être la première fois que la pilosité intime d'une femme réelle, et non une nymphe ou une déesse, est représentée. Et l'on doit cette prouesse à Francisco Goya. Mais l'œuvre n'était pas conçue pour être vue de tous au départ. Peinte entre 1790 et 1800, elle faisait partie du cabinet secret de Manuel Godoy, chef du gouvernement espagnol nommé par le roi Charles IV, où elle était dissimulée grâce à un ingénieux mécanisme coulissant derrière une réplique habillée, la maja vêtue. Pas si moderniste donc, le petit Goya. En mars 1808, le peuple madrilène se révolte et Manuel Godoy échappe de peu à un lynchage public. Renversé, le roi Charles IV laisse place à son fils Ferdinand VII, qui met la main sur les biens de Godoy et découvre la maja nue, qu'il confisque aussitôt. L'Inquisition, tribunal d'église né au XIIIe siècle en France pour réprimer l'hérésie, renaît alors en Espagne. Souhaitant faire un exemple pour mater le vent d'insoumission qui souffle en Europe depuis la Révolution française, l'Inquisition intente un procès contre Goya pour obscénité. En théorie, même si cet issue est devenue plutôt rare, le peintre risque de passer au barbecue. Grâce à l'appui du cardinal, le peintre est miraculeusement acquitté et on peut maintenant admirer la merveilleuse maja nue au musée du Prado. Autre cas de censure et pas des moindres, la censure d'une œuvre d'Ernest Pignon Ernest par 3 jeunes fervents catholiques. Dans le cadre de l'exposition Ingres et les modernes, 2 anges monumentaux réalisés par l'artiste, inspirés du vœu de Louis XIII d'Ingres, recouvrent la façade de la cathédrale de Montauban. Armés de balais, de papier journal et de colle, les 3 jeunes gens ont tenté en pleine nuit de recouvrir le sexe féminin des anges afin de les rendre décents. Ils ont finalement été arrêtés par la police, alertés par les caméras de vidéosurveillance, avant d'avoir pu recouvrir le sexe du 2e ange. Ce geste de censure nous replonge loin dans le temps à la querelle concernant le sexe des anges qui fut tranchée, enfin si l'on peut dire, lors d'un concile tenu à Byzance en 1453, alors même que les Turcs assiégeaient la ville. La religion et les religieux ne sont pas les seuls responsables de la censure du corps, même s'ils y sont pour beaucoup. La censure peut aussi, et souvent, être porteuse d'un message politique. Mary Richardson, étudiante aux Beaux-Arts, entra le 10 mars 1914 dans la National Gallery de Londres et taillada à plusieurs reprises la toile de Velázquez, la fameuse Vénus au miroir. acte iconoclaste planifié politiquement, comme elle a expliqué plus tard, revendiquant ainsi Emmeline Pankhurst, militante politique connue pour avoir organisé le mouvement des suffragettes britanniques et aidé les femmes à obtenir le droit de vote en Grande-Bretagne. Je la cite « Je voulais montrer que la plus belle femme sur une toile n'était rien comparée à la mort d'une femme en prison. » Censure du corps politique, donc. Et message aussi sur l'objectification du corps nu féminin, persistant dans les institutions muséales. Celui qui a fait frémir la censure chinoise, c'est le jeune photographe Ren Hang, qui a fait l'objet d'une rétrospective à la Maison européenne de la photographie en 2019 à Paris. Ren Hang déplaît dans son pays à cause du tabou culturel que représente le nu en Chine. Il questionnait avec audace la relation à l'identité et la sexualité à travers des mises en scène de nus masculins ou féminins, crus et acidulés. Historiquement, le nu a vraiment échappé à la Chine contrairement à l'Occident. On lui a fait fermer ses expositions, on lui a fermé son site web. Ils escaladaient avec ses modèles les grilles des parcs la nuit, se déshabillaient en deux temps trois mouvements, ils prenaient les clichés et hop, décarpissaient avant que la police n'ait le temps de les arrêter. La liberté d'expression en tant qu'artiste en Chine pour la représentation du corps nu est quasiment nulle. Modigliani s'est vu retirer certaines de ses toiles de la galerie de Veil, où elles étaient exposées car ses modèles féminins étaient trop poilus au goût du propriétaire. Egon Schiele a vu un de ses dessins brûler devant ses yeux au tribunal, qui le condamne pour propagation de dessins érotiques et attentat à la pudeur. Bon, rappelons quand même que Egon Schiele avait des tendances pédophiles, mais quand même. L'Origine du Monde, tableau peint par Courbet, est quant à lui censuré sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram du Jeu de Paume à Paris a été suspendu en mars 2013 pour le partage d'un cliché de la photographe Laure Albin Guillot montrant une femme nue. Dans le même genre et toujours plus affligeant, la partie supérieure du tableau utilisé pour la campagne de publicité de l'exposition consacrée à l'artiste Natalia Goncharova au Palazzo Strozzi à Florence en 2019 sur les réseaux a été censurée car trop de peau était apparente et le nu était soi-disant indécent. Ce tableau, en plus d'être peint par une femme, avait aussi choqué le public en 1910 pour les mêmes raisons. Comme quoi on n'a pas trop évolué. D'ailleurs, beaucoup de comptes dont je partage le contenu et que je suis sur les réseaux sont régulièrement victimes de censure du corps, que ce soit les créateurs des contenus d'art ou les artistes eux-mêmes. Mais que pouvons-nous en penser? Serions-nous atteints de pudibonderie aiguë ou pire, d'hypocrisie? Mais jusqu'où va-t-on aller dans la transgression? Carole Talon-Hugon, professeur et membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste de la philosophie esthétique, dépeint avec justesse et une pointe de rire dans son ouvrage « L'art sous contrôle, la société moralisatrice dans laquelle nous vivons ». Je vous conseille vivement cette lecture aux éditions PUF. Actes de vandalisme, d'iconoclasme, de censure, manifestations, protestations, performances et interventions artistiques, toutes ces manifestations qui ont comme toile de fond le musée ou hors les murs, ont souvent comme motivation, point de départ, le corps et la sexualité. La police du corps n'a pas chômé depuis les tout débuts de sa représentation. Terreau fertile, la religion ainsi que notre système politique n'en finissent plus de nous contraindre et nous encadrer. La société devient de plus en plus moralisatrice, comme j'ai tenté de vous expliquer à travers ce court épisode. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve très vite pour un tout autre thème. Allez, à la prochaine !